Ernest dit Laurence de la Barre. La chapelle de Locmaria de Groix, récit des grèves. Remarquait encore il y a quelques années, sur la côte orientale de l'île, à 8 milles de la pointe de la Groix, les ruines abandonnées d'une petite chapelle. Au commencement du siècle, le phare de la Croix ne s'élevait pas encore sur la falaise. La chapelle de Locmaria était depuis longtemps l'objet de la pieuse vénération de tous les matelots du pays. Un petit clocher en pierre surmontait l'édifice que l'on découvrait de plus de 2 lieues au large. Aussi, chaque fois que, le soir, un coup de vent paraissait s'annoncer pour la nuit, les braves pêcheurs, dont la chaumière était voisine, avaient-ils soin d'allumer une lanterne qu'ils attachaient au battant de la cloche, et comme la petite tour était à jour et ouverte aux 4 points cardinaux, ce signal pouvait servir à guider des navires, soit pour entrer dans le port, soit au contraire, suivant leur position, pour éviter les côtes et les bancs qui entourent l'îlot. Mais avec le temps, les circonstances changèrent. Un homme riche, venu de l'Orient, acheta de la pauvre commune de Groix quelques arpents de la falaise pour établir une pêcherie. Beaucoup de gens pensaient que la chapelle ne faisait point partie de son lot, mais Rocheland, c'était son nom, s'en appara sans écouter aucune remontrance et menaça de faire un procès opiniâtre à quiconque tenterait de le trouver dans sa possession. On finit par le détester et par le craindre, si bien que l'on osa lui disputer les débris de Locmaria. Le pignon où se trouvait la grande porte paraissait encore très solide, ainsi que les murs latéraux. Le clocher avait été abandonné par la moitié. La meilleure cloche s'était brisée en tombant. Il n'y restait plus que la petite cloche fendue par les injures du temps. Elle servait encore à rappeler les ouvriers au travail. L'intérieur de l'édifice avait été transformé en magasin destiné aux vieux bois, caisses ou tonneaux hors de service, et cela faisait dire aux gens du pays qu'une telle profanation ne resterait pas impunie. Rocheland avait un fils unique nommé Abel, qu'il aimait autant que son caractère et ses occupations le lui permettaient. Abel, âgé de 17 ans à peine, était doux et bon, plein de courage, malgré sa timidité apparente, et de patience, malgré son ardeur à braver les dangers de la mer. Jeune, riche et beau, il espérait avoir dit pour jamais un éternel adieu aux séductions de la ville. Il ne demandait qu'à vivre retiré sur cette île étroite, dont les mélancoliques aspects avaient tant de charme pour son cœur. Enfin, cet enfant, rempli d'une charitable piété, mettait tous ses soins à réparer, vis-à-vis des pauvres gens, tous les torts de son père. Depuis plusieurs mois, on avait cessé d'allumer la lanterne dans le clocher de la chapelle. Deux naufrages venaient d'attrister l'île de Groix, et chacun les attribuait à l'absence du signal. Abel ignorait cette circonstance. Un soir, à la fin de l'automne, le vent ébranlait les toitures des habitations les plus voisines du rivage. La demeure de Rocheland, appuyée au grand rocher qui domine la falaise, éprouvait toute la violence de l'ouragan. Le jeune Abel, ami passionné des grandes scènes de la nature, ne pouvait rester insensible à l'abri quand il se trouvait peut-être sur les flots des hommes exposés à perdre la vie. Plus d'une fois déjà, il avait contribué par son courage à des sauvetages dangereux. La vue des vagues en courroux excitait son jeune enthousiasme et faisait battre son cœur. C'est pourquoi, ce soir-là, au bruit du vent qui branlait la pêcherie, le fils de Rocheland, muni d'une longue corde, d'une gaffe et d'un fanal, sortit de la maison sans prévenir son père. Ce soin du reste était inutile eu égard au genre de vie adopté par ce dernier. Uniquement occupé de son commerce, se fiant avec raison à la sagesse de son fils, il lui laissait la plus entière liberté et ne souffrait pas qu'on vînt le déranger, le soir surtout, quand il chiffrait sur ses vieux livres de comptes. Abel s'éloigna de la maison, mais il ne put le faire sans éveiller l'attention d'un vieux marin attaché depuis un grand nombre d'années au service de Rocheland et dévoué par une affection toute paternelle à la personne du jeune Abel. « Ne cours pas si fort, mon enfant, lui dit le vieux Jacques. Il va faire nuit noire et tempête. » « Mais c'est justement à cause de la tempête, répondit Abel, que je cours à la côte. Mais dépêchons, car il me semble que je vois là-bas, au large. » « Oui, oui, au large de la pointe d'enfer, les feux d'un navire qui cherche le port. »« Ah, mais s'il y avait seulement un signal sur ces rochers. »« Bon, j'ai entendu dire, reprit le marin, qu'autrefois, quand cette chapelle était en bon état, tous les soirs de gros temps, on avait soin d'allumer un fanal dans le clocher. » Ces paroles rendirent Abel pensif, et il ralentit le pas en marchant le long des murs de Loch Maria. « Et si j'y plaçais mon fanal ? » s'écria-t-il tout à coup. « Oh, sans doute, c'est une idée, une véritable idée de matelot. Mais l'escalier de la tourelle est presque démoli. Comment se lisser là-haut ? La moitié des enfléchures sont tombées. Mais regarde, regarde, miracle ! Une lumière vient de s'allumer dans le clocher. » C'était la vérité. Une clarté brillait au sommet des ruines. Et après avoir considéré plus attentivement, ils distinguèrent comme une silhouette découpée sur le ciel sombre, la forme d'une petite paysanne. « Descends, descends, petite malheureuse !» cria le marin. « Le vent est trop fort, il va t'emporter !»« Tout à l'heure, quand j'aurai fini, » répondit d'en haut une voix claire et tranquille. Quelques minutes après, l'aventureuse paysanne descendit, ou plutôt se laissa glisser en rampant le long des corniches, avec l'agilité et la sûreté d'un chat sur des gouttières. La voyageuse aérienne, une enfant de 13 ans, toucha bientôt la terre sans accident. « Dis-moi, petite, lui dit Abel, pourquoi as-tu allumé ce fanal ?»« Pour sauver mon père et les autres, répondit la paysanne. « Oui, c'est bien beau, j'en conviens, mais c'est bien dangereux. Et qui te donne tant d'adresse et de courage ?»« Le bon Dieu ?»« C'est vrai, c'est admirable, murmura Abel attendri. « Ah, j'en reconnais à présent, dit le vieux marin en baissant la voix. On la nomme Marguerite, elle est toute mignonne, c'est la fille unique d'un pêcheur ou petit caboteur de Kerorey, auquel monsieur Rocheland. Assez, assez, Jacques, à l'avenir, je veux m'occuper de ce signal. Quelle leçon vient de nous donner cette pauvre créature ? Mais il est temps d'aller à la mer. Marguerite, veux-tu venir avec nous ? Je ne sais pas, dit la petite avec incertitude, car vous êtes le fils du bourgeois. Oui, mon enfant, c'est vrai, seulement il ne faut plus songer à cela. Je ferai pour ton père tout ce que je pourrai. Maintenant, allons à son secours. Veux-tu nous suivre ? Oh, pour sûr que je veux. On disait bien l'autre jour que vous étiez bon, vous. Ils arrivèrent bientôt sur la grève à un endroit qui, lorsque le temps était beau, offrait un petit point de refuge assez praticable. Mais la mer en ce moment était grosse et houleuse, la nuit sombre, le vent violent à l'ouest. Pourtant, la tempête n'éclatait pas encore. Autrement, le bâtiment signalé se perdait sans rémission, corps et biens. Marguerite ne doutait point que ce ne fût le lougre de son père. Elle pria ardemment, en considérant avec angoisse le ciel et la mer. Puis elle montait sur les rochers et en descendait à chaque instant afin de mieux voir la situation du navire qui se rapprochait sensiblement de minute en minute. Deux ou trois autres marins du bourg de Groix venaient aussitôt d'arriver sur les lieux et disaient entre eux que la chasse-marée aurait fait côte avant une demi-heure, à moins d'un miracle parce que, au milieu d'une nuit si noire, il était impossible de s'orienter de manière à trouver l'entrée de la petite baie. « On a bien fait d'allumer le signal dans la tour, » dit l'un des marins. « Le signal de Locmaria ne suffit pas, m'est avis, » dit Jacques, « pour bien s'orienter dans les ténèbres par un temps de pluie, comme ce soir, que l'on ne peut distinguer le phare de Port-Louis. Il faudrait un autre feu, là, en avant des récifs sur ce gros rocher. »« votre fanal !» s'écria la fille du pêcheur, saisissant l'idée du vieux marin. « Donnez-moi votre fanal, monsieur Abel, et j'oublierai tout, et je vous aimerai toute ma vie, et mon père, s'il est sauvé, vous bénira. » Le jeune homme n'avait pas besoin des larmes de la pauvre enfant pour se dévouer au salut d'un malheureux. À moins de deux encablures de la côte, une roche élevée à pic s'avançait dans la mer. Les lames s'y brisaient sans cesse, et pour l'atteindre, il fallait marcher, tantôt à sec, tantôt avec de l'eau jusqu'aux genoux, à marée basse sur une étroite chaussée formée en partie de pierres roulées par les flots et en partie au moyen de gros galets disposés par les pêcheurs. La mer achevait alors de descendre. C'était là ce qui contenait encore l'explosion de la tempête et qui permit au courageux Abel de s'élancer sur la chaussée au mépris des flots, des rafales et des supplications de Jacques épouvanté. Il avait déjà parcouru le tiers de la distance lorsqu'il s'aperçut avec effroi que la paysanne le suivait et s'efforçait de le rejoindre. Malheureuse, dit-il en s'arrêtant, retourne, retourne à la côte où tu es perdue. Que non pas, fit Marguerite. Je connais les pierres, je les vois sous l'eau mieux que vous. Mais tu me retardes, et pour revenir la mer aura commencé à monter, et nous serons perdus cette fois. À savoir, monsieur Abel, au surplus, qu'importe pour moi, du moins, si mon père est sauvé. Et vous, ne savez-vous pas nager ? Oui, mais toi, oh mon Dieu, que faire ? Allez toujours, lorsque le fanal sera placé sur le rocher, il sera temps de revenir. Et ils continuèrent leur course, guidés bien plus par leur instinct, par leur habitude des grèves, que par la clarté vacillante du fanal dont la pluie ternissait les vitres. Bientôt même se vit Marguerite qui prit les devants. « Ici, par ici, monsieur Abel, » disait-elle au jeune homme incertain. « Posez le pied sans crainte, à gauche, la pierre est solide. Sautez vite avant cette lame qui vient. » Enfin, ils atteignirent le rocher. Abel voulait y monter seul à cause de la violence du vent. Marguerite le supplia de la laisser faire, disant que son père aurait peut-être la chance de la reconnaître à la clarté du fanal. Ils gravirent ensemble l'écueil ébranlé par les houles devenues plus furieuses depuis que le flot se faisait sentir. Alors la fille du pêcheur saisit la lanterne, l'éleva au-dessus de sa tête et la baissa par trois fois. Ô bonheur ! Sur le navire, balancé par les lames au point de disparaître de temps en temps, une lueur apparut, montant et descendant comme celle de Marguerite. Le capitaine du Louvre avait évidemment aperçu le signal et y répondait de la même manière. La petite fille, à genoux sur le rocher, pleurait à chaudes larmes. Abel fixait le fanal dans une fente de la pierre. « Partons maintenant, dit-il, le temps presse. » Ils redescendirent sur la chaussée et s'y engagèrent rapidement. Mais hélas, outre que la mer avait un peu monté, les lames déferlaient dans la baie avec plus de fureur et roulaient à grand bruit sur les galets. Marguerite elle-même sentait diminuer son assurance. Elle ne retrouvait plus les pierres solides, et chaque fois que les vagues venaient s'abattre de l'autre côté contre les récifs, en les couvrant d'une écume épaisse que les rafales emportaient au loin, elle frémissait d'épouvante. Abel s'en aperçut. Il conjura sa faible compagne de le laisser passer devant elle et se mit à marcher en avant, sondant à chaque pas la profondeur de l'eau au moyen de la gaffe qu'il avait heureusement conservée. Mais il n'avançait plus qu'avec une grande lenteur. La mer montait toujours avec d'autant plus de force que le vent portait à la côte. Toute la chaussée se trouvait ensevelie sous les flots. Plus rien pour se conduire dans les ténèbres, pas même cette transparence de l'eau, presque imperceptible, qui tout à l'heure les guettait encore. Plongés dans la mer, souvent jusqu'aux aisselles, ils se sentaient soulevés à chaque moment et ne pouvaient se diriger que par les ombres, à peine visibles des marins errant sur la plage, ou par la direction des clameurs et des appels que poussaient les braves gens consternés. Aucun bateau ne se trouvait dans cette baie peu fréquentée. On ignorait du reste l'endroit où étaient les pauvres enfants. Un coup de mer avait pu les emporter au loin, de l'autre côté les brisant. Abel, soutenant d'une main Marguerite, sondant toujours de l'autre, interrogeait avec sa gaffe la position de chaque pierre avant d'y placer le pied. Cette situation était affreuse. Les bourdonnements confus des vagues, les sifflements des rafales, l'agitation continuelle de la mer ne pouvaient tarder à lui causer un funeste vertige. Ses yeux tentaient inutilement de percer la couche sombre et trop profonde des flots. Ses bras s'alourdissaient sous tant d'efforts. Sa main crispée s'appuyait trop fortement sur la gaffe à demi rompue. Et la gaffe se brisa tout à coup. Albert chancela en perdant cet appui et glissant sur le bord de la chaussée, il essaya de lutter à la nage contre les éléments déchaînés. Les marins entendirent alors un cri de détresse, malgré le bruit terrible de la tourmente. Au même instant, le navire, guidé par ce signal du rocher, entra dans la baie, avec la vitesse d'un trait, et vint s'échouer à quelques pas de la côte, sans toucher contre les écueils. Il était sauvé du naufrage. Depuis cette nuit, pendant laquelle le pêcheur de Carhoret avait couru de si grands dangers, chaque fois que, le soir, le vent semblait s'élever avec un peu plus de violence, on voyait un vieux marin, une petite grésillonne, s'approcher avec un fanal de la chapelle de Loch Maria. Le vieillard dressait d'une main ferme une échelle contre le mur, et la jeune fille, vive et courageuse, gravissait les degrés sans crainte du vent ou de la pluie. Bientôt le fanal, attaché dans la tourelle au support de la cloche, projetait sur la falaise ses rayons brillants. La paysanne considérait un moment la sombre étendue de la mer où les feux de quelques vaisseaux se balançaient parfois au large. Elle murmurait alors un Ave Maria pour les navigateurs exposés et redescendait rapidement auprès du brave homme qui ne pouvait l'attendre ainsi sans éprouver de l'effroi. Allô, allô, Marguerite, fais plus d'attention aux enfléchures. Si tu tombais, petite malheureuse, que dirait-il? Oh, n'ayez pas peur, Jacques, j'ai le pied marin, vous savez. Maintenant, partons vite. Vous allez monter à sa chambre, je voudrais bien aller, mais hélas, monsieur Hochelaur me chasserait. Puis revenez bien vite, me donnez de ses nouvelles. Sois tranquille. Oh, s'il allait mourir, mourir pour mon père et pour moi. Elle se désolait ainsi à quelques pas de la pêcherie de monsieur Rochelan, où Jacques venait d'entrer. Et comme il tardait à revenir, la douleur et l'inquiétude de Marguerite augmentaient avec les instants. Enfin, le serviteur reparut. Sa figure portait les traces d'une émotion profonde.
« Qu'y a-t-il ? » s'écria la fille du pêcheur. « Parle, tu me fais frémir. Monsieur Abel,
oh, il n'est pas plus mal, j'espère. Bon, il était beaucoup mieux ce matin.
Oh, bien alors.
Monsieur Rochelant a vu briller le fanal dans le clocher de la chapelle. Cela l'a mis en colère et il m'a grondé devant le malade. Alors, malgré sa faiblesse, le pauvre enfant s'est levé tout d'un coup et s'est jeté aux genoux de son père. Il a fini par attendrir le cœur de cet homme dur, mais ils ont du mal, m'est avis par la suite. » Et le vieillard et la jeune fille, unis dans une commune affection et par de communes inquiétudes, se séparèrent tristement. Cependant, quoique souffrante et faible encore, par une suite inévitable de la fatigue et du froid qu'il avait éprouvé dans la mer, Abel ne tarda point à reprendre peu à peu sa vie habituelle. Mais il conserva toujours, depuis cette épreuve, une tristesse invincible. Sa douceur, sa bonté, sa piété s'augmentèrent d'une patience et d'une résignation sans bornes. Il semblait, sans le dire, dominé par une idée fixe, mais qui ne portait aucune atteinte à la sérénité de son caractère. Son père n'avait rien changé à sa propre manière de vivre, si ce n'est qu'il semblait accorder un peu plus de condescendance à ce qu'il appelait les puériles fantaisies de son fils. Abel en profitait pour visiter les pauvres gens dans l'île, les malades, les malheureux, quels qu'ils fussent. Le père de Marguerite, déjà sur l'âge, n'était assurément pas oublié. Le jeune homme se rendait souvent à la chaumière du pêcheur et avait toujours quelques commissions lucratives à lui confier. Et souvent la petite grésillonne se chargeait joyeusement de les remplir, soit qu'il fallût courir au bourg de Groix, soit qu'Abel vint lui demander des poissons, des huîtres ou de menus coquillages. Mais tout ce qu'on pouvait lui commander ou lui permettre, rien ne rendait Marguerite plus heureuse que de la laisser monter le soir, par les plus mauvais temps, sur le clocher de Loc Maria. Voyant combien Abel tenait à cette précaution ridicule et dangereuse, selon lui, Hochelaur, encore sous l'impression de la dernière maladie de son fils, tolérait ou feignait d'ignorer que le fanal brillait souvent dans la tourelle. Mais les yeux clairvoyants du jeune homme ne pénétraient que trop les désolantes dispositions de son père. Que pouvait-il faire ? Redoubler de zèle, respecter l'auteur de ses jours, prier pour lui et attendre. Oui, respecter son père et prier pour lui. C'est là, je l'affirme, la pierre de touche de l'amour filial. L'aimer, fût-il dur et même injuste, c'est le devoir de l'enfant, c'est la loi de Dieu. Monsieur Rochelin devenait chaque jour de plus en plus avide de lucre et de négoce. Il consumait ses veilles dans de continuelles combinaisons commerciales et commençait à s'irriter de l'existence à peu près inutile, selon lui, que menait son jeune fils. Il résolut donc d'essayer, sur son héritier, le pouvoir de sa volonté paternelle. Il n'était pas besoin de détour pour conduire Abel dans la voie de l'obéissance. « Vous voulez que je parte ?» dit-il à son père en retenant ses larmes. « Je partirai. Vous désirez que je commande vos bâtiments sur la mer ?»« La mer me connaît déjà, je ne crains pas la fureur des flots. Je vous obéirai. » Et si j'éprouve quelque douleur en partant, c'est que je vous laisserai seul, mon père. Seul aussi, je laisserai les pauvres. Puissiez-vous, en souvenir d'un fils qui vous aime, les secourir dans leur détresse. Peu de temps après, sur un brick qui portait son nom, Abel fit voile vers le sud par un beau jour de septembre. Deux autres navires chargés des produits de l'industrie de M. Rochelan et destinés aux villes du Midi de la France suivaient son sillage. Quelle fut sincère et ardente la prière du jeune marin à Notre-Dame de Locmaria au moment de l'appareillage. Le petit clocher en ruine qui surmontait l'édifice fut le dernier objet qui occupa ses regards. Et sur le faîte de la tourelle, une petite grésillonne, assez semblable à une mouette qui va s'envoler, tendait ses bras vers la flottille et vers le ciel. Un jour, c'était à la fin d'octobre, tout semblait annoncer une tempête. Jacques se rendit avec la fille du pêcheur sur la falaise qui domine la baie dont nous avons parlé. Longtemps, ils examinèrent en silence l'étendue des flots tumultueux, et ne voyant aucune voile apparaître, ils se sentirent un peu plus tranquilles. « Que Jésus le protège !» s'écria la jeune fille en tremblant, comme si elle avait eu la fièvre. « Dieu soit béni, je ne vois rien là-bas. La mer est si affreuse, et ce soir, qui sait, plus mauvaise encore, peut-être. » « Il faut espérer que non, » dit Jacques. « On ne peut voir plus gros temps. »«
C'est que j'ai rêvé cette nuit, ouragan et naufrage, et je voyais... Oh non, non, je ne puis pas raconter cela, je souffre trop en ce moment. »«
Mais qu'as-tu, pauvre créature? Tu trembles, tu frissonnes. Vois-tu quelque chose ?»«
Une voile !» s'écria Marguerite éperdue en prenant sa course. « Une voile !»
Alors elle s'élança du côté des grands rochers qui surplombent au-dessus de la côte. Et pour voir de plus loin, sans doute elle voulut les gravir rapidement. Mais sa marche était chancelante, ses pas mal assurés. On lui dit d'un oiseau blessé que le plomb vient de frapper à l'aile. Le vieux marin s'en aperçut et lui cria qu'elle se trompait, qu'aucune voile ne paraissait en vue, de prendre garde, revenir auprès de lui. Hélas, il était déjà trop tard. Marguerite avait presque atteint le sommet des rochers, lorsque Jacques la vit se pencher au-dessus de l'abîme, perdre l'équilibre en poussant un cri et rouler à plus de 50 pieds au bas de la falaise. Le pauvre homme descendit au plus vite par un sentier dangereux et releva le corps de la jeune fille. Il la porta dans ses bras jusqu'au bord de la mer, où la fraîcheur des vagues rendit un peu de sentiment à la malheureuse enfant. Elle devait se tuer dans cette chute affreuse. Par bonheur, quelques arbustes qui croissaient entre les fentes des pierres en avaient amorti les effets. Le vieux marin éprouvait une angoisse inexprimable en considérant ce visage tout angélique, pâli peut-être par l'approche de la mort. « N'oublie pas le fanal !» murmura Marguerite avec effort. « Ce soir, à Locmaria !» Et elle s'évanouit de nouveau. L'ouragan règne au loin sur la mer. Les grésillons assurent que depuis 10 ans, on n'a point vu pareil coup de vent. Le soleil, au terme de sa course, va plonger dans les flots son disque rouge, que l'on n'a fait qu'entrevoir un instant entre d'énormes nuages teintés de larges blanches de feu. Les rafales du sud-ouest sont lourdes, inégales, incessantes. Les vagues s'élèvent à une grande hauteur et déferlent à grand bruit sur les brisants. La nuit sera horrible. Et cependant, on a signalé au large un navire d'un assez long tonnage. Il a tiré 3 coups de canon, soit en signe de détresse, soit pour commander de veiller à la côte. Depuis, il a cessé de tirer, et au coucher du soleil, on a remarqué qu'il gouvernait bien encore, faisant route presque sans voile, le cap sur la rade de l'Orient. À la nouvelle que l'on avait signalé des voiles dans le sud, M. Rocheland s'était rendu sur la grève où beaucoup de marins se rassemblaient déjà. Mais après avoir acquis la certitude que l'on ne découvrait pas plus d'un seul navire qui, au milieu du brouillard et de la pluie, semblait être plus fort qu'aucun des siens, le négociant, satisfait et tranquille dans son égoïsme, reprit aussitôt le chemin de son habitation. Il approchait alors des murs de la chapelle de Locmaria. La nuit était déjà sombre. Il allait passer sans s'arrêter quand il vit briller une lumière sous la voûte du vieil édifice dont il avait fait, nous l'avons dit, un magasin de bois. « Mais qui va là ? » s'écria-t-il avec colère. « C'est moi, monsieur, moi, Jacques, votre serviteur. » « Eh, que veux-tu par là, ici, misérable ? Pour l'amour de Dieu, laissez-moi hisser là-haut mon fanal dans le clocher, c'est pour les navires. »« Les navires n'ont pas besoin de ta méchante lanterne. Au surplus, il n'y a pas de bâtiment sur la côte de Groix. »« À la côte, non, pas tout à fait, Dieu merci, mais ils peuvent y tomber cette nuit. »« Oh, laisse-moi tranquille, Jacques, va-t'en. » Je veux pas que tu mettes ce fanal sur la tourelle. Je l'ai trop toléré que longtemps. Le vent pourrait le faire tomber dans le magasin au-dessus, et alors le feu, tu comprends. Oh, par pitié, monsieur, laissez-moi faire, j'ai promis. Non, ça m'est égal, sors d'ici. Pourtant, monsieur... Écoute, Jacques, tu veux m'irriter à toute force. Et si je me contiens, c'est à cause de... Mais rappelle-toi bien que si jamais je vois une lumière sur ce clocher de malheur, je te chasse. » Le négociant s'éloigna à ces mots, laissant le malheureux vieillard dans la plus grande perplexité. L'alternative était cruelle. « Me chasser, moi !» s'écria Jacques. « Me chasser, mais il me l'a dit !» Que Notre-Dame fasse miséricorde aux matelots. » Puis, murmurant des prières, les yeux fixés sur la mer, son fanal à la main, le vieux serviteur descendit vers la falaise et se joignit au groupe de marins que la tempête avait rassemblés. Bon, on prétend que la petite Marguerite ne peut survivre à la chute qu'elle a faite tantôt, dit un pêcheur au moment où Jacques arrivait. « Le bon Dieu la sauvera, » répondit-il. « Tant mieux, » dit l'autre, « elle est si bonne, si jolie. » Ciel, regardez, matelot, quel éclair!
Mon Dieu, oh, j'ai aperçu la mâture du bâtiment, m'est avis qu'il chasse à la côte sur la pointe d'enfer.
Oui, c'est vrai, voilà un autre éclair. Voyez, et pas un signal sur ces brisants.
Impossible d'y atteindre, la chaussée est recouverte à cette heure de 6 pieds d'eau, et les lames sont hautes à tout renverser.
Encore, si on avait allumé le fanal de Locmaria, malheureusement, la petite est sur le lit, mais vous, Jacques, je croyais que vous en occupiez aussi.
Impossible, matelot, répondit le pauvre homme, ne voulant pas dévoiler la conduite indigne de son maître.
Impossible, le vent a battu l'escalier de la tour. Oh, c'est un grand malheur.
Alors allumons une flambée, là, sur le haut, dans le creux du rocher.
Bientôt une flamme, entretenue par la pluie, par ces débris de chaloupe couverts de peinture et de goudron, projeta sur la mer en furie une clarté que l'on pouvait apercevoir de plusieurs milles. Sur les 9 heures du soir, la tempête acquit une violence extraordinaire. Les nuages d'un noir affreux, roulés les uns sur les autres par des vents opposés, découvraient, parfois en se déchirant au milieu de leurs sombres entrailles, des profondeurs qui illuminaient la lueur des éclairs. La mer, soulevée par des tourbillons, portait ses vagues blanches d'écume à plusieurs centaines de pas sur la falaise, et à l'endroit de la chaussée, dans la baie, les plus hauts rochers qui formaient l'escarpement de la côte semblaient couverts à chaque instant comme par d'épais flocons de neige. Depuis quelques moments, les éclairs amortis par les torrents de pluie ne sillonnaient plus le sombre firmament. L'obscurité n'en était peut-être que plus affreuse. Au-delà de l'espace qu'éclairait le brasier soigneusement activé par les marins, on ne distinguait rien, ni sur la grève, ni sur la mer. Où courait le vaisseau en perdition? On en était réduit aux conjectures, car le canon ne tenait même plus de loin en loin, et aucune lumière ne brillait sur le tillac. Tout à coup, un bruit sourd, une secousse semblable à celle d'un édifice qui s'écroule, firent trembler la falaise. Tous les assistants à la fois poussèrent une clameur d'épouvante en s'écriant « Seigneur, le bâtiment est perdu !» Puis ils coururent à l'endroit où le sinistre venait d'avoir lieu. De nouveaux brasiers furent allumés. Des matelots dévoués et courageux, au nombre desquels se trouvait le vieux Jacques, se mirent à la mer, munis de gaffes et de cordages, dans l'espoir de sauver les naufragés. Le navire s'était jeté sur des brisants un peu au-dessus de la baie de Locmaria. Il avait manqué l'entrée de la baie, soit que l'état de la mer eût rendu le gouvernail impuissant, soit que le capitaine, trompé par les signaux, eût pris le brasier de la grève pour le fanal de la tour. On vit alors, à la lueur de ce brasier, un spectacle touchant. Un jeune homme, au visage calme et beau, les mains jointes, les yeux levés au ciel, s'avança sur le gaillard d'avant, la seule partie du navire qui ne fut pas encore engloutie. Il aida le dernier de ses matelots à se jeter à la mer. Et quand il fut certain qu'il n'y avait plus la moindre chance de salut pour son vaisseau, et qu'il ne reste plus que lui à bord, il ôta son habit, jeta sur la mâture brisée un regard douloureux, puis faisant le signe de la croix, il plongea dans les flots.
« Abel, Abel !» s'écria Jacques en reconnaissant avec stupeur l'infortuné jeune homme. « Abel, mon enfant, c'est lui, juste ciel, sauvons-le, matelot !»
Et le vieillard fit des efforts désespérés pour s'avancer dans la mer jusqu'au récif où le bâtiment s'était entrouvert. Il ne cessait d'appeler Abel à grands cris, lorsqu'une houle furieuse s'abattit contre les flancs du brick qu'elle acheva de détruire, et roulant vers la côte avec un bruit affreux, emporta le vieux marin, que les pêcheurs relevèrent tout sanglant et brisé. Les trois navires de M. Rocheland, portant une grande partie de sa fortune, firent naufrage la même nuit. Le premier, que commandait Abel, périt ainsi que nous l'avons rapporté. Les deux autres, séparés par l'ouragan, sombrèrent en pleine mer. Le pauvre Jacques mourut deux ou trois jours après, des suites des contusions et de la douleur qu'il avait ressenties dans la nuit du naufrage. Abel, après avoir, durant trois mois, donné les plus vives inquiétudes pour sa vie, revient cette fois encore à la santé. Dieu l'appelait à de plus grandes choses. Tant de malheurs, tant de chagrins, réussirent-ils enfin à ouvrir les yeux du père aveugle et impie? Nous inclinons à le croire, car avant le retour du printemps, M. Rocheland vendit sa pêcherie et annonça qu'il retournait sur le continent. Vain projet! Le temps ne lui fut pas accordé de remplir ses derniers desseins. La perte des biens de ce monde est souvent, paraît-il, hélas, un coup que l'homme ne supporte pas. Le négociant portait à la fin le poids amer de ses jours dépensés dans l'erreur et l'éloignement du bien. Un sombre désespoir le conduisit en peu de mois aux portes du tombeau. Mais les prières du fils pieux et soumis avaient touché le cœur du père trop longtemps endurci. Ô tardive, mais bien douce consolation! M. Rocheland, après de longues souffrances et de cruelles alternatives de désespoir et d'espérance que lui imposait la justice de Dieu, mourut en chrétien dans les bras de son fils. Un soir, un vaisseau, sorti de la rade de l'Orient, faisait voile pour l'Amérique, cinglait sur la mer armoricaine et rangeait, à moins d'une portée de canon, les côtes de l'île de Groix. Alors un jeune homme, vêtu d'une longue robe noire, monta sur le gaillard d'arrière. Il tourna vers l'îlot paisible un regard voilé de larmes, murmura un suprême adieu, et tant que les rochers de la falaise purent être aperçus à travers la brume du crépuscule, il demeura à la même place, le corps tendu, sans mouvement, les yeux fixes, pareils à une statue. Enfin, la brise du soir commença de souffler plus fortement sur la mer. L'obscurité s'étendit sur les flots agités. La marche du vaisseau devint plus rapide. Le jeune religieux paraissait de plus en plus attristé. Tout à coup, son regard s'illumina à la vue d'une clarté qui brilla sur la côte de l'île de Groix, et on aurait pu l'entendre murmurer ces mots. « Le fanal de Loch Maria !» Oui. C'était le fanal du petit clocher, et ce religieux qui venait de l'apercevoir avec tant de joie, c'était Abel, ardent apôtre destiné aux missions du Nouveau Monde. Mais le fanal, enfin, est-il besoin de dire qu'il avait allumé? Quelle autre personne que Marguerite devait revendiquer ce soin, obtenir ce privilège? Avant d'abandonner pour jamais l'île de Groix et ses pauvres amis, Abel avait consacré sa fortune à la famille du pêcheur de Kerhoret, au soulagement des malheureux et aux réparations de la chapelle de Loch Maria, et surtout du petit clocher, qui pendant longtemps tint lieu de phare sur ce rivage. Quiberon, juillet 1867.